présente « Demande à la poussière » de John Fante, lu par Thibaut de Montalembert. Chapitre 1. Un soir, je suis assis sur le lit dans ma chambre d'hôtel sur Bunker Hill, en plein cœur de Los Angeles. C'est un soir important dans ma vie, parce qu'il faut que je prenne une décision pour l'hôtel. Ou bien je paie ce que je dois, ou bien je débarrasse le plancher. C'est ce que dit la note que la tôlière a glissée sous ma porte. Gros problème, ça, qui mérite la plus haute attention. Je le résous en éteignant la lumière et en allant me coucher. Le matin, je me réveille, décide que je devrais faire plus d'exercices et je m'y mets tout de suite. Je fais plusieurs exercices d'assouplissement. Après ça, je me lave les dents. Qu'est-ce que je vois ? Du rose sur la brosse et un goût de sang. Ça me rappelle les réclames et je décide de sortir, boire un petit café. Je descends au restaurant où je vais toujours. Au restaurant, je m'assois sur le tabouret devant le long comptoir et je commande un café. Il en a plus ou moins le goût, mais vaut quand même pas la thune. Je reste là à fumer une cigarette, et puis une autre. Je lis les résultats des matchs de l'American League, évitant scrupuleusement ceux de la National League, notant avec satisfaction que Joe DiMaggio fait toujours honneur aux Italiens, parce que, de tout le championnat, c'est lui qui a le plus de points marqués à la batte. Il est en tête du classement. Un grand cogneur, ce DiMaggio. En sortant du restaurant, je me mets en position devant un lanceur imaginaire et j'expédie un home run du tonnerre par-dessus la balustrade. À la suite de quoi, je descends la rue en direction d'Angel's Flight en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire de cette journée. Mais il n'y a rien à faire. Alors je décide de me balader en ville. En descendant Olive Street, je passe devant un méchant immeuble jaune, encore humide comme un buvard, du brouillard de la veille. Et ça me fait repenser à mes amis Etty et Carrie, qui sont de Détroit et ont habité là. Je me souviens de la nuit où Carrie a fichu une trempe à Etty parce qu'elle allait avoir un bébé et lui, il n'en voulait pas. Mais ils ont eu le môme quand même, et puis c'est tout. Et je me rappelle comment c'était à l'intérieur, comment l'appartement sentait la souris et la poussière. Et je revois les petites vieilles, assises dans le hall, quand il faisait chaud l'après-midi. Et puis la vieille dame qui avait de si jolies jambes. Et puis le liftier, un homme brisé qui venait de Milwaukee, et qui semblait toujours ricaner chaque fois qu'on demandait son étage. Comme si c'était tellement idiot de choisir justement cet étage. Le liftier, qui avait toujours un plateau de sandwich dans l'ascenseur et un roman feuilleton à 4 sous. Mais je continue sur Olive à descendre la butte, passer les horribles bicoques en bois qui suintent le crime et le fait divers, et toujours sur Olive jusqu'au Philharmonic Auditorium. Et ça me rappelle la fois où j'y suis allé avec Helen voir les chœurs. Les Cosaques du Don. Et est-ce que j'avais pu m'embêter à ce truc-là, même qu'on s'était disputé à cause de ça. Et je me rappelle ce qu'Hélène portait ce jour-là, une robe blanche, même que j'en avais les reins qui chantaient, rien que de la toucher. Oh, cette Hélène. Mais bon, pas maintenant. Bientôt, me voilà au coin d'Olive et de la 5e, là où les gros trolleys vous cassent les oreilles avec leurs boucans, et l'odeur d'essence rend triste même la vue des palmiers, et le noir de la chaussée est encore mouillé du brouillard de la veille. Et me voilà en face du Biltmore Hotel, à marcher le long de la file de taxis jaunes. Tous les chauffeurs roupillent au volant, sauf celui en tête de file, près de l'entrée. Des vraies mines de renseignements, ces mecs-là. Je me souviens de la fois où Ross et moi, on s'est fait refiler une adresse par un de ces types-là, et de la façon salace qu'il avait de nous regarder tout en nous conduisant sur Temple Street. Justement Temple Street, je vous demande un peu. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit arriver là-bas ? Deux mochetés, je ne vous dis que ça. Ross, lui, il a été jusqu'au bout. Moi, je suis resté dans le salon à jouer des disques sur le phonographe, tout seul avec ma trouille. Je croise le portier du Biltmore et aussitôt, c'est la haine, immédiatement. Lui avec ses passements jaunes et son mètre 80 et toute cette dignité à la manque. Et voilà qu'une automobile noire s'approche du trottoir et qu'un homme en descend. L'air riche, le type. Et puis, une femme descend à sa suite. Et elle est belle. Du renard argenté comme fourrure, une vraie chanson qui passe là sur le trottoir et disparaît à travers la porte battante. Et c'est là que je me dis « Oh boy, dis donc, si seulement tu pouvais t'offrir ça, rien qu'un tout petit peu, rien qu'une journée et une nuit. » Un rêve qu'elle était, un rêve que je faisais en marchant et son parfum était encore dans l'air humide du matin. Ensuite, je reste piqué pas mal de temps devant une boutique d'articles de fumeurs, à regarder la devanture. Et le monde disparaît autour de moi. Il n'y a plus que cette vitrine pleine de pipes. Et moi devant, à les fumer toutes. Je me vois déjà grand auteur, très chic avec ma pipe de bruyère importée d'Italie, et ma canne, en train de descendre d'une grosse voiture noire, et elle est là aussi, pas peu fière de moi, la femme au renard. On signe le registre et on prend un cocktail et on danse un moment. Après ça, on reprend un cocktail et là, je lui récite des vers tirés du sanskrit. Et la vie est belle, d'autant plus qu'il ne se passe pas deux minutes sans qu'une beauté me reconnaisse, moi, le grand auteur. Et rien à faire, il faut absolument que je leur signe leur menu. Et la fille au renard est drôlement jalouse. Los Angeles, donne-toi un peu à moi. Los Angeles, viens à moi, comme je suis venu à toi. Les pieds sur tes rues. Ma jolie ville, je t'ai tant aimée, triste fleur dans le sable, ma jolie ville. Un jour, et un autre, et celui d'avant. Toujours la bibliothèque avec les caïds sur les étagères, ce vieux Dreiser, ce vieux Mencken. J'allais leur rendre visite tous tant qu'ils étaient. Salut Dreiser, salut Mencken, salut, salut. Il y a une place pour moi aussi sur les étagères, et ça commence par B. Arturo Bandini, dans les B. Allez, dégagez un peu dans les B. Un peu de place pour Arturo Bandini, un peu de place pour son livre. De la table, je restais à contempler l'endroit où serait un jour mon livre, là, juste à côté d'Arnold Bennett. Pas terrible, Arnold Bennett, mais bon. Avec moi, les B allaient justement reprendre du poil de la bête. Sacré Bandini, enfin arrivé. Ça durait jusqu'à ce qu'une jolie fille ou une trace de parfum dans la salle fiction, ne serait-ce qu'un cliquetis de talons hauts, s'en vienne rompre la monotonie de ma célébrité. À jour de gala, rêve de gala. Mais la taulière continuait de m'écrire ses petites notes. Elle avait les cheveux tout blancs, elle était de Bridgeport, dans le Connecticut. Son mari était mort et elle était seule au monde et ne faisait confiance à personne. Pouvait pas se le permettre, qu'elle disait. Elle me disait aussi qu'il allait falloir régler la note. C'était plus une note, c'était carrément la dette nationale, alors il fallait payer ou débarrasser le plancher. Jusqu'au dernier sou. 5 semaines en retard, ça faisait $20. Et si je payais pas, elle me confisquerait mes malles. Sauf que j'avais pas de malles, juste une valise. Et encore. En carton bouilli qu'elle était la valise, sans même une courroie pour la tenir, parce que la courroie, je l'avais autour du ventre pour retenir mon pantalon, même que c'était pas bien foulant vu qu'il restait plus grand-chose dans mon pantalon. Mon agent vient de m'écrire, que je lui disais. De New York. Il dit que j'en ai vendu une autre. Il dit pas où, mais il dit que j'en ai une de vendue. Alors vous en faites pas, Madame Hargraves. Vous faites pas de bill, j'aurai ça dans un jour ou deux. Même si vous croyez qu'elle allait écouter un menteur dans mon genre. Pas vraiment un mensonge, remarquez, juste un souhait, et peut-être même pas un souhait, après tout. Peut-être que c'était un fait, et la seule façon de le savoir, c'était de surveiller le facteur. L'avoir bien à l'œil, zioter le courrier qu'il amenait quand il l'étalait sur le bureau de la réception, lui demander comme ça, à brûle-pourpoint, s'il n'avait rien pour Arturo Bandini.